Est-ce que vous connaissez un dénommé Abdias ? Il y en a qui ont déjà entendu parler de Abdias. N'ayez pas honte. Peut-être si je le dis en anglais ou en grec d'abord, Obadiou. Il y en a qui connaissent Obadiou. Et j'aime bien en anglais, c'est il y en a qui connaissent Obadiah. Obadiah, c'est la version latine, française, grecque et hébraïque d'un prophète qui a sans doute prophétisé, il y a deux théories, soit en 850 avant Jésus-Christ, soit à peu près en l'an 580 avant Jésus-Christ. La date n'est pas si importante. Vous allez être rassurés parce que je vais vous dire qu'en fait, on ne sait rien de lui, à part cette prophétie que nous allons regarder aujourd'hui. Il fait partie des petits prophètes, en anglais des minor prophets. Et parmi les petits prophètes, il est le plus petit. Sa prophétie ne compte qu'un seul chapitre. Il arrive après Osée, Joël, Amos, on tombe sur Abdias. Abdias, Obadiah. Il y a à peu près une douzaine de personnes dans l'Ancien Testament qui portent ce nom. Et on n'est pas sûr que ce prophète soit l'une des douze personnes. Il y a trois ou quatre personne qui pourrait, à la limite, être la même personne. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est pas son pédigré, c'est son message. Son message qui parle, en fait, d'un jugement qui va venir sur le frère d'Israël. Si vous avez des souvenirs de l'école du dimanche ou de vos études bibliques, de votre lecture de la Bible, je vous invite à vous tourner dans la Genèse au chapitre 25. Qui nous dit ce qu'il est advenu des enfants d'Israël, des enfants, pardon, d'Abraham. Abraham, vous vous souvenez, il a eu ce fils Isaac. Il avait eu d'abord un fils Ishmaël, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Son fils, son vrai fils, selon Dieu, c'était Isaac. Et Isaac a eu deux enfants. On va lire à partir du verset 19 de la Genèse 25. Je lis dans la version second 21, qui est la version que vous pouvez emprunter dans l'église ici. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padam-Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants, parce qu'il y avait des jumeaux, se heurtaient à l'intérieur d'elle. Elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a deux nations dans ton ventre. » Deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Continuons, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est pour vous donner un peu l'arrière-plan de cette prophétie qui annonce en fait un jugement contre Édom. Donc Ésaü, c'est Édom. Édom, encore une fois, ça veut dire rouge, c'est pour ça qu'il avait eu ce surnom. C'est pour cela qu'on avait donné à Ésaü le nom d'Édom. Et puis, c'était quelqu'un qui était l'aîné, le jumeau. Et on avait vu qu'en fait, son frère, il lui retenait, quand il était sorti le premier, son frère lui retenait le talon. C'est comme s'il voulait le supplanter. Et c'est ce que veut dire le nom de Jacob. C'est celui qui manipule, celui qui essaye d'arriver à ses fins en manipulant les choses. Et on sait que Jacob va devenir Israël, il va être régi, Dieu va régner sur lui après sa rencontre et son combat contre l'ange de l'Éternel. Et puis on sait que les deux frères, donc c'est l'histoire en fait de deux frères ennemis. Il y avait un groupe d'humoristes français qui est moins célèbre en ce moment, qui s'appelait les frères ennemis. C'était le cas de Ésaü et de Jacob. Ils sont arrivés à faire la paix entre eux, mais ce qui est curieux, c'est que leur descendance sont restés antagonistes. Il y a eu donc ces descendants qu'on a fini par appeler Édom, du nom de l'ancêtre, Ésaü appelé Édom. Et puis, il y a eu le peuple d'Israël, le peuple de Jacob qui est devenu Israël. On sait qu'il y a eu deux très grands rois, le roi David et le roi Salomon, qui ont régné à Jérusalem sur le peuple d'Israël. Et puis il y a eu la séparation, il y a eu le schisme du royaume du Nord et du royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'était le royaume d'Israël, appelé aussi des fois le royaume d'Éphraïm. Éphraïm, parce que c'était la tribu la plus grande. Il y avait 10 tribus qui avaient décidé de rester au nord sous l'impulsion d'un dénommé Jéhoram. Et le royaume du sud avait pour capitale Jérusalem, avec le descendant du roi Salomon. Donc après ce schisme, il y a eu cette séparation avant que Dieu ne punisse quelque part les deux nations en les envoyant en exil. Le royaume du Nord est parti exilé par les Assyriens en l'an 722. Le royaume du Sud, lui, il aura un petit sursis. Il attendra 586 pour être envoyé, avant Jésus-Christ, pour être envoyé à Babylone par les Babyloniens. Un petit repère, des fois on parle de 500 avant Jésus-Christ, 1500 ans avant Jésus-Christ. Sachez que grosso modo, David, le roi David, à son apogée, c'est l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc lorsqu'on parle de l'an 586, on parle de 400 et quelques années après David, et ça peut être un bon repère. Donc mettez-vous bien en tête, David, c'est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Il y avait donc ce royaume d'Édom qui a causé du tort à Israël, même si les ancêtres avaient plus ou moins fait la paix. On va regarder un passage important pour voir ce qui se passait, le livre des Nombres. Donc avant le Deutéronome, le livre des Nombres au chapitre 20, versets 14 à 21. Moïse essayait de rejoindre la terre promise et il devait passer dans le territoire d'Édom qui se trouvait au sud de la mer Morte, du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, c'est-à-dire que c'était de l'autre côté du Jourdain, même si le Jourdain s'arrête, lui, dans la mer Morte. Il y avait une ville qui s'appelait Kadesh ou Kadesh, et voilà ce qu'il est dit à partir du verset 14 du chapitre 20. De Kadesh, ou Kadesh, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui annoncer « Voici ce que dit ton frère Israël. » Il lui rappelle, on est frangin. « Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos ancêtres sont descendus en Égypte et nous y avons habité longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nos ancêtres et nous. Nous avons crié à l'Éternel et il nous a entendus. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Nous nous trouvons à Kadesh, ville située à l'extrémité de ton territoire. Et puis la requête, laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous en écarter à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Donc, on vous demande juste le passage. On ne va pas s'installer, on ne va même pas manger votre nourriture. On va faire le minimum. On va juste passer, on ne va pas s'installer, on ne va même pas boire l'eau de vos puits. Ce qui paraît assez difficile à concevoir lorsqu'on connaît l'aridité, la chaleur de cette région de Édom, mais c'est la promesse faite par Moïse au roi d'Édom, et voilà ce que lui répond le roi. Édom lui dit « Tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les Israélites lui dirent « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, mes troupeaux et moi, j'en paierai le prix. » « Je ne ferai que passer avec mes pieds, rien d'autre. » Là, il admet qu'il aura soif quand même, mais il est prêt à payer pour cette eau. Et Édom lui répondit, « Tu ne passeras pas. » Et il sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et puissamment armé. Ainsi, Édom refusa d'accorder à Israël l'autorisation de passer par son territoire, et Israël fit un détour. Toute l'assemblée des Israélites partit de Kadesh, et arriva au mont Hor. Autrement dit, devant la mauvaise volonté de leur cousin, Israël est obligé de faire un détour. Ils ne sont même pas accueillis pour passer, boire un peu d'eau et avoir une voie plus rapide pour aller à leur destination en terre promise. assez intéressant de savoir aussi que là, ça va être un... Nous avons vu des jugements contre Israël et contre Juda, mais on avait vu déjà dans le livre d'Amos, verset 11 du chapitre 1, voici, c'est pas la peine de vous y tourner, je vous le rappelle, voici ce que dit l'Éternel à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, ça veut dire qu'il a souvent péché, il a souvent commis des crimes, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur, j'enverrai le feu dans Théman et il dévorera les palais de Botsra. Donc il y avait déjà un jugement qui avait été indiqué par le prophète Amos, et là le prophète Abdias va clairement indiquer le jugement qui va arriver sur ce royaume d'Édom. Quand on parle des voisins d'Israël, on parle souvent de Édom, des Moabites et des Ammonites. C'était pour les deux derniers, les descendants de Lot, pour le premier, le descendant d'Ésaü, et ils n'ont causé que des problèmes à Israël, au peuple de Dieu. Il y a plusieurs endroits qui parlent justement des jugements qui vont tomber sur Édom. Il y a notamment dans le prophète Jérémie, je vais vous lire un passage, Jérémie 49, chapitre 7 à 22. Pardon, chapitre 49, verset 7 à 22. Une autre prophétie par Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. N'y a-t-il pas plus de sagesse dans Théman? Théman, c'était une ville d'Édom. Les conseils des hommes intelligents ont-ils disparu? Leur sagesse est-elle évanouie? C'est intéressant de savoir qu'un des conseillers de Job, Eliphaz, venait de Théman. Ils avaient cette réputation d'être des gens de sagesse. Et là, fuyez, tournez le dos, allez-vous réfugier dans les profondeurs, habitants de dedans. En effet, si je fais venir le malheur sur Ésaü, c'est-à-dire sur Édom, c'est le nom de l'ancêtre, c'est le moment de mon intervention contre lui. Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ne détruiront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Mais c'est moi-même qui dépouille Ésaü, qui met ses cachettes à découvert. Il ne pourra plus se mettre à l'abri. Sa lignée, ses frères et ses voisins seront dévastés et il n'existera plus. Plus loin, j'ai appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager est envoyé parmi les nations. Rassemblez-vous et marchez contre Édom. Levez-vous pour lui faire la guerre. Oui, je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es un objet de mépris parmi les hommes. Ton insolence, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui occupes le sommet des collines, puisque tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Édom deviendra un sujet de consternation. Tous ceux qui passeront près de lui seront consternés et siffleront à la vue de toutes ses blessures. Ce sera comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome et Gomorre, ainsi que les villes voisines, dit l'Éternel. Plus personne n'y habitera, plus aucun homme n'y séjournera. Une prophétie très forte qui en fait est parallèle à ce que nous allons voir aujourd'hui sous la plume d'Abdias. Abdias, j'ai dit qu'on ne savait pas grand-chose de lui. On peut toujours, en hébreu, essayer de voir ce que veut dire le nom d'une personne. Son nom, ça voulait dire adorateur et serviteur de Dieu, de l'Éternel, de Yahweh. C'est intéressant que ce soit indiqué dans cet ordre, parce que Dieu recherche d'abord des adorateurs. Souvent, nous avons tendance à venir lui offrir notre service. Et ce qui compte pour lui, ce n'est pas tant notre faire que notre être. Ce n'est pas tant tout ce que nous pouvons faire pour lui que ce qu'il peut faire pour nous et ce que nous pouvons recevoir dans l'adoration. Il est plus important, et je me parle à moi-même, que je passe du temps dans l'intimité avec le Seigneur pour l'adorer, pour le connaître, pour lire sa parole, pour lui chanter des cantiques, pour écouter des chants qui élèvent mon cœur vers lui. C'est plus important que je ne vienne travailler à l'église, que je ne prépare mes sermons, que je ne me concentre sur du faire. Et encore une fois, c'est une question de priorité. Est-ce que je cherche d'abord à l'adorer, à le connaître, plutôt qu'à faire plein de choses pour lui? La bonne chose, c'est que si on l'adore vraiment, nos cœurs, notre vie va vouloir le servir. Quand quelqu'un vous bénit, notre tendance, c'est de bénir en retour. Alors avec le Seigneur, il est important de ne pas penser qu'on peut mériter sa bénédiction en faisant des actes religieux ou en... C'est la grâce de Dieu. Il nous aime, qu'on l'accepte ou pas d'ailleurs. Même les païens sont aimés par Dieu. Il fait briller son soleil dessus les païens comme dessus les justes. Il a tant aimé le monde, tous les hommes, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tous les hommes, mais il prend plaisir à passer du temps avec vous. Et je vous le dis, et je me le dis, parce que ma tendance, c'est bien souvent d'essayer de faire pour lui des choses plus que d'essayer d'être à ses côtés. Et c'est tellement vrai, c'est tellement un principe de base qu'on le retrouve dans toute la Bible. Et le meilleur exemple, peut-être, c'est Marthe et Marie. Marthe qui se fâchait parce que sa sœur, cette grande godiche, au lieu de venir l'aider à préparer le repas pour Jésus, elle faisait l'intéressante en étant à ses pieds. Et pourtant, Jésus la reprend en disant « Marthe, Marthe, pourquoi t'agites-tu tant ? Marie a pris le meilleur, être à mes pieds, recevoir de moi. » Et cet homme, Abdias, il a pu recevoir cette prophétie parce que c'était un adorateur. Et là, en tant que serviteur, il va nous communiquer cette vision que Dieu lui a donnée, cette vision sur le jugement qui va tomber sur le frère, les cousins du peuple d'Israël. Lisons ensemble à partir du verset 1. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es l'objet du plus grand mépris. » Ça vous rappelle Jérémie 49, n'est-ce pas ?« L'orgueil de ton cœur t'a égaré. » Toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis « Qui me fera tomber jusqu'à terre ?» Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, même si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, Ne voleront-ils tout, pas tout ce qu'ils peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors cachés sont découverts. Toutes tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont trompé et l'ont emporté sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, tes mânes seront dans une telle épouvante que tous les habitants de la montagne d'Ésaü mourront dans le carnage. Encore une fois, c'est le nom qui est utilisé, Ésaü, pour désigner les Édomites, les habitants d'Édom, par le nom du frère de Jacob, Ésaü. Quel est le grand péché d'Édom? Quel est notre grand péché? Quel est le péché des péchés? Quel est le péché de Satan? C'est l'orgueil. L'orgueil, une définition, c'est de croire qu'on peut vivre sans Dieu, qu'on peut vivre sans égard pour lui, vivre comme s'il n'était pas là et se confier, faire confiance à ses propres ressources, ses propres forces. Et c'est ça qui a égaré Édom. L'orgueil, verset 3, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Je ne sais pas si vous suivez un peu les nouvelles sur Internet, ces genres de nouvelles qu'on trouve en ligne, moins sur le journal de Jean-Pierre Pernaut. Mais le 10 juin 2016, il a été annoncé, donc c'est juste il y a un mois, qu'une grande découverte archéologique avait été faite en Jordanie, à Petra. Petra, c'est justement l'endroit où habitait, c'était la capitale de ces Édomites. Vous avez sans doute vu des photos de ce fameux canyon qui mène une gorge de plusieurs kilomètres, une gorge qui mène à travers des rochers de couleur orangée de toute beauté, qui mène à un endroit où des temples ont été creusés dans la roche. C'est le fameux monument de Petra, qui a été finalement habité par des Arabes qui ont chassé les Édomites. Les Édomites sont partis plus au sud. On a commencé à les appeler les Idouméens. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est Hérode le Grand. C'est intéressant, encore une fois, de voir que cette animosité entre les frères ennemis, elle a continué jusqu'à Hérode. C'est le dernier des grands, lui et c'est les quelques rois qui l'ont suivi, c'est le dernier maillon qui nous relie aux Édomites. Après ça, il n'y a plus eu d'Édomites. La prophétie d'Abdias s'est réalisée à la lettre. Aujourd'hui, vous pouvez encore voir des Juifs, des descendants de Jacob, mais je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui vous dit « Je m'appelle Marcel et je suis Édomite ». Ça n'existe pas. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont découvert un endroit qui n'est pas très loin de ces temples creusés dans la roche, un endroit qui fait à peu près 50 mètres sur 40 mètres, et ils l'ont repéré grâce grâce aux photos satellites, et vous ne le croirez pas, mais aussi grâce au programme de Google, Google Earth, qui pourvoit des photos vues d'altitude, et ils ont remarqué une forme rectangulaire, 50 mètres sur 40 mètres, comme une piscine olympique, deux fois la largeur d'une piscine olympique. Et cet endroit nous ramène directement à cette histoire. J'étais émerveillé et encouragé, parce qu'on se dit, eh voilà, Pierre continue dans les petits prophètes. On va essayer de trouver quelques petites leçons. Non, Dieu nous parle, même par ces petits prophètes, Dieu nous parle par l'inimitié qui a présidé, qui a existé jusqu'à la fin entre deux frères et leurs descendants. Vous avez sans doute remarqué que des fois, les relations les plus difficiles, celles qui causent le plus de problèmes dans la vie, c'est des fois des relations avec la famille. On peut avoir dans nos familles des points de dispute ou de rancœur qui font que ça nous pourrit la vie. Et si c'est votre cas, remettez cela au Seigneur. Je sais parmi nous déjà, je connais plusieurs situations où des situations d'inimitié dans la famille pourrissent la vie. Il faut être prêt à pardonner, prêt à aimer. Et c'est souvent parce qu'on ne peut pas, quelque part, on n'échappe pas à sa famille. Il y a toujours les mariages, les fêtes, on peut les ignorer, mais tôt ou tard, on est appelé à être en contact avec les membres de nos familles limitées ou étendues. Et l'actualité de cette découverte m'a dit, c'est bien qu'on soit en plein dans Abdias Obadiah, que la plupart d'entre nous, on ignore royalement. Ce qui est remarquable, c'est qu'en une seule séance, on va faire un 66e de la Bible. Il y a 66 livres de la Bible. Les messages sont organisés en ligne avec le numéro du livre dans la Bible. Et là, on va épuiser tout un livre, Dieu voulant, si je tire jusqu'à la fin de ce chapitre. Parce qu'il y a un seul chapitre. C'est un de ces livres de la Bible qui n'a qu'un seul chapitre. Qu'est-ce qui était donc source d'orgueil pour le royaume des Édomites? Ils n'avaient pas une grande influence géopolitique. Ils n'avaient pas un grand commerce sur les mers qui faisait qu'ils étaient une des principales puissances. Non, tout ce qu'ils avaient, c'était leur emplacement, qui était un emplacement remarquable. Il est facile de contrôler l'accès de Petra, notamment, lorsqu'on sait qu'il y a des falaises de près de 30 mètres de haut, de 100 mètres de haut, qui se rapprochent jusqu'à, parce qu'il y avait un petit torrent, un oued, qui se rapproche jusqu'à 2 mètres, 3 mètres. Donc il suffisait de quelques personnes pour jeter des pierres sur quelqu'un qui aurait voulu envahir. C'était très facile à contrôler. Ils n'avaient en fait pas grand-chose pour en tirer de l'orgueil. Ils avaient ce sentiment qu'ils étaient bien protégés. Ils avaient placé, comme le dit très joliment le passage, « Tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle ». Ça nous rappelle un certain Hitler et son nid d'aigle à Berchtesgaden. « Même si tu le plaçais parmi les étoiles, « je t'en ferai tomber », déclare l'Éternel. Dieu, on ne peut pas lui échapper. Des fois, on a l'impression que si nous mettons nos yeux devant, notre main devant nos yeux et que nous le cachons, il ne nous voit plus. Ça fait sourire, ça fait penser aux enfants qui cachent ce qu'ils ne veulent pas voir avec leurs mains en pensant que S'ils ne voient pas, c'est sans doute qu'on ne les voit pas. Et le psalmiste David disait: où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. On ne peut pas échapper aux yeux du Seigneur. Il voit tout, il sait tout. Et Dieu lui dit qu'en fait, c'est l'orgueil de son cœur qui l'a égaré. J'ai dit qu'ils n'avaient pas de quoi vraiment dériver un grand orgueil. Mais vous l'avez peut-être constaté autour de vous, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes ressources ou des grands sujets d'orgueil pour être très orgueilleux. Est-ce que vous avez déjà constaté que des fois des gens peuvent avoir un orgueil incroyable alors qu'en fait ils n'ont pas vraiment de quoi être orgueilleux? Mais c'est justement parce que l'orgueil est source d'égarement. L'orgueil nous trompe. L'orgueil ne nous fait pas raisonner sainement. Il pollue notre jugement, l'orgueil. Et encore une fois, Dieu avait dû faire tomber Satan, le chef des anges, un archange, un ange de toute beauté, parce que cet ange voulait être aussi grand que Dieu. Il voulait recevoir l'adoration de Dieu. Et donc, le jugement est indiqué, ils vont être volés. Et là, c'est là cet exemple, lorsqu'il y a des gens qui viennent pour voler vos champs, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Tous tes trésors, apparemment, ils avaient pu emmagasiner quand même des trésors dans leur bâtiment creusé dans le rocher. Encore une fois, si vous n'avez jamais vu ces monuments, je vous invite à faire une recherche sur Google. J'aurais dû amener une photo de Petra. Si des voleurs, ils vont tout vous prendre. Donc ils vont être complètement détruits ou volés. Les alliances qu'ils avaient formées vont être brisées. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes ennemis t'ont trompé, ils l'ont emporté sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ils vont être dépouillés, les alliances vont être brisées, la sagesse va être détruite. Ce jour-là, verset 8, je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Vous allez être bêtes. C'est intéressant que l'absence d'intelligence puisse constituer un jugement par Dieu. Je ne ferai juste une brève allusion à nos dirigeants politiques, qu'ils soient français, anglais, américains ou n'importe où dans le monde. Mais Dieu peut punir quelqu'un en les rendant stupides. Vous vous souvenez de Nabuchodonosor, Nabucodonosor, qui lui aussi se prenait aussi puissant que Dieu. Dieu lui a dit: tu vas être comme une vache dans l'herbe. Et il lui a fallu ce jugement, cette stupidité, pour qu'il reconnaisse que Dieu, le Dieu des Juifs, est le Dieu de l'univers. La sagesse est détruite et son armée est battue. Tes guerriers, tes mannes, c'était une autre façon de désigner les Édomites, c'était une de leurs villes principales, seront dans une telle épouvante que les habitants de la montagne d'Ésaü mourront dans le carnage. Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui est annoncé à Édom. les raisons du jugement, elles suivent, on va lire les versets 10 à 14. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus emmenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur. Ne te réjouis pas aux dépens des Judéens le jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche le jour de la détresse. N'entre pas dans la ville de mon peuple le jour de sa ruine. Ne regarde pas son malheur avec plaisir le jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses le jour de sa ruine. Ne te poste pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses rescapés le jour de la détresse. C'est dit d'une façon impérative, négative, mais c'est aussi une façon de dire que c'est ce qu'ils ont fait ou c'est ce qu'ils allaient continuer de faire. On a vu qu'ils avaient, usé de violence ou menacé d'user de violence contre leurs frères lorsque Moïse voulait passer par leur territoire afin de raccourcir sa route. Ils avaient, on l'a lu, menacé de venir avec l'épée. Et il est dit, à cause de la violence, de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Encore une fois, cette prophétie d'extermination pour toujours, elle s'est réalisée, comme je l'ai dit, on ne peut pas trouver d'Édomites aujourd'hui. Ils ont disparu, ils ont été remplacés par d'autres peuplades. Quand je vous ai parlé de Petra, c'est intéressant de savoir que ça s'est produit au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, que ces habitants, les Nabatéens, comme ils sont appelés, des Arabes, sont venus occuper et continuer de vivre à Petra et dans cette région de la montagne de Seir. Mais il a fallu attendre le 19e siècle, en 1825, pour qu'on le retrouve, cet endroit. Et on imagine la découverte de cet endroit fantastique. C'est un, je ne sais plus quelle était sa nationalité, un archéologue qui se fiait sur la parole de Dieu, la prenant comme la vérité, et voulait trouver trace de ce royaume d'Édom, de cette ville Petra, qu'on appelle des fois Sela en hébreu. Petra, c'est le nom grec. Et qui, pour ce faire, a pensé qu'il devait y avoir toujours un culte dans cette région. Et il s'est revêtu des vêtements de bédouin. Il a demandé à des bédouins où est-ce qu'il pouvait offrir un sacrifice. Et c'est ainsi qu'on l'a amené en ayant, on connaît un endroit, un peu comme aujourd'hui, on ne partage pas les endroits où on trouve des champignons. Là, ils avaient un endroit où ils pouvaient adorer leur Dieu. Et donc, c'est ainsi. Donc, en 1825, c'est tout récent. Quand on va en Israël, maintenant, il faut le passeport, il faut pouvoir passer en Jordanie, mais c'est tout à fait faisable. Lorsque, j'espère, nous organiserons un voyage en Israël bientôt, je suis vraiment mordu d'aller voir Petra et de voir ces endroits qui ont été ainsi sur lesquels Dieu a ainsi prophétisé par Jérémie, par Abdias. Les raisons de ce jugement, c'était à cause, en parallèle de l'orgueil. L'orgueil débouche sur la violence. Si vous y pensez bien, lorsque vous disputez avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a de l'orgueil, il y a de l'ego, il y a des étincelles d'ego qui font qu'on se dispute. Si on est humble, on est d'accord, c'est de ma faute. Je sais que j'ai sans doute encore fait une bêtise. Et une douce parole, une douce réponse tue la colère, nous disent les proverbes. Et c'est vrai que si, au contraire, on monte sur ses grands chevaux, comme l'expression le dit en français, ça va être le combat à coups d'épée, à coups de médisance. Et ils avaient fait usage de violence contre leurs frères d'Israël. Il y a ça, c'était leur premier péché découlant de l'orgueil, c'était l'usage de la violence qui promettait leur extermination. Une deuxième chose terrible, c'est qu'ils se réjouissaient des malheurs de leurs cousins. N'entre pas dans la ville de mon... Pardon, ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur. Ne te réjouis pas aux dépens des Judéens le jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche le jour de la détresse. Ne pas se réjouir, ne pas célébrer lorsque les autres souffrent. Un conseil pour ce soir. Quelqu'un va souffrir ce soir. Ne vous réjouissez pas de cette souffrance. Soyez humble, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je ne prends pas parti parce que je ne suis pas prophète. Ils se sont réjouis, et ça, on le trouve de façon frappante dans le psaume 137. C'est pas la peine de vous y tourner, je vais vous lire rapidement. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. C'est les Juifs exilés. Nous avions suspendu nos harpes au sol du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Éternel, souviens-toi des Édomites. Le jour de la prise de Jérusalem, ils disaient « Rasez-la, rasez-la jusqu'aux fondations ». Ils avaient encouragé, donc ça c'est on pense que c'est la destruction en 586, et eux étaient encore là à encourager les Babyloniens à détruire et à se réjouir du malheur. Ils avaient même aidé l'ennemi. Verset 13, n'entre pas dans la ville de mon peuple le jour de sa ruine, ne regarde pas son malheur avec plaisir le jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses le jour de sa ruine. Ils avaient posté au carrefour des gens pour exterminer les fuyards et ils avaient livré les rescapés au jour de la détresse, le jour de l'Éternel. Puis leur problème, c'était aussi qu'ils ignoraient le jugement que constitue le jour de l'Éternel. On a dit que le jour de l'Éternel, pour le peuple de Dieu, c'est ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. Pour les gens qui sont à Christ, pour le peuple de Christ, qu'ils soient juifs, sauvés ou chrétiens non d'origine juive, c'est un jour de libération. Pour tous les autres, le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement terrible. Et là, il est dit, on te fera comme tu as fait, tes actes retomberont sur ta tête. C'est l'inverse de la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Là, tu vas récolter ce que tu as semé. On te fera comme tu as fait. Et puis, on voit les résultats de ce jugement. On va lire à partir du verset 15. En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait, tes actes retomberont sur ta tête. Tout comme vous avez bu sur ma montagne sainte, toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront jusqu'à l'ivresse, elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Ça, c'est l'annonce du jugement des nations. Toutes les nations païennes, celles qui n'ont aucun égard pour Dieu, sa parole, pour son fils, pour son sacrifice, celles-là vont être détruites. Mais verset 17, il va y avoir une restauration d'Israël. Cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il sera saint et la famille de Jacob reprendra ses possessions. La famille de Jacob sera un feu et la famille de Joseph une flamme. Mais la famille d'Ésaü sera de la paille qu'elles allumeront et brûleront. Et il ne restera rien de la famille d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Les habitants, verset 19, les habitants du Négev, le sud, posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine et pays des Philistins, ils posséderont le territoire d'Éphraïm au nord et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galaad, la Galilée, les exilés, cette armée d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Les exilés de Jérusalem qui seront à Sépharad posséderont les villes du Négev. Des libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. C'est la promesse d'une libération, la promesse de la défaite des ennemis et la promesse d'un royaume qui va être rétabli pour le peuple d'Israël. C'est intéressant, il y a ce mot à la fin qui revient souvent, les habitants du Négev posséderont la montagne d'Ésaü, posséderont tel territoire, posséderont tel autre territoire. Ça nous rappelle, dans le livre de Josué, lorsque Dieu disait à Josué que tout pays qui serait foulé par leurs pieds leur appartiendrait, qu'ils avaient des possessions, la promesse qui a été faite à Abraham, en fait, elle représentait un territoire et immense. Je crois que ça doit être de l'ordre de 3 fois, presque 1 million de kilomètres carrés. Et au plus fort de leur expansion sous le roi Salomon, ils n'ont possédé qu'un dixième de ce territoire qui leur a été promis. Alors on n'est pas là pour avoir du territoire, mais on est là pour posséder les promesses que Dieu nous fait, les promesses que Dieu nous a faites. On est là pour avoir la victoire sur le péché. On est là pour avoir de l'humilité, de l'amour, de la compassion et ce qui est merveilleux, c'est que Israël n'a pas à combattre pour ses victoires. C'est Dieu qui combat pour son peuple. Et l'application, c'est que c'est Dieu qui livre ses combats, nos combats pour nous. Si nous avons des péchés contre lesquels nous luttons, des choses qui nous pourrissent la vie quelque part, la vie spirituelle, on croit s'en être débarrassé et on retombe dedans. Est-ce qu'on fait appel par la foi à Dieu qui veut nous libérer de ses ennemis? Ça, c'est la leçon d'Abdias. Nous pouvons être encouragés, Dieu va combattre pour nous. Nous n'avons pas à combattre nos propres ennemis. Au contraire, nous devons les bénir, dire du bien d'eux, aimer nos ennemis. Et c'est vrai que si on fait de nos ennemis des amis, on a détruit nos ennemis. Ils sont devenus des amis. Et je vous invite vraiment à regarder dans votre vie là où est-ce qu'il y a d'une part des péchés qui sont vos ennemis. Vous ne voulez pas en faire des amis en les laissant prospérer, non, vous voulez que Dieu s'en charge. Mais si dans vos relations, que ce soit des relations familiales, que ce soit des relations au travail, des relations dans l'église, des relations dans tous les cas de figure de votre vie ici-bas, s'il y a de l'inimitié, sachez que c'est d'abord de l'orgueil à la base. Confessez cet orgueil devant Dieu. Reconnaissez, et c'est, Encore une fois, l'orgueil, il nous égare, il nous trompe. C'est être humble, c'est pas de la fausse modestie, c'est du réalisme. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu, nous dit le Seigneur, me dit Dieu, Jésus. Et en plus, si je regarde bien, je suis tellement faible. N'importe quel petit virus peut me détruire. Prions pour le Brésil qui doit recevoir des Jeux Olympiques. Maintenant, il paraît qu'ils ont trouvé une bactérie sur les plages de Rio qui cause une maladie terrible et qu'on peut pas soigner. Ils ont des signes qui, à l'aéroport de Rio de Janeiro, qui disent « Bienvenue en enfer ». C'est des gens qui contestent le système social, la police, la corruption. Et Abdias, maintenant vous connaissez son nom, j'espère que vous rappellerez son message, un message d'humilité, d'amour dans la famille. Et je crois que pour nous en tant que chrétiens, c'est souvent avec la famille qu'on se dispute le plus. On a Calvary Chapel, il y a l'église apostolique, l'église baptiste, l'église de l'action biblique. Il y a toutes ces dénominations, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes. Et bien souvent, on a tendance à mettre plus d'énergie dans nos différences, à affirmer nos différences, souvent pas dans l'amour avec ces personnes, qu'à nous battre contre les vrais ennemis, qui sont pas la chair et le sang, mais comme le dit Paul dans Galates, les dominateurs dans les lieux célestes, les princes des ténèbres, les puissances maléfiques qui nous entourent dans un monde invisible mais qui est vraiment réel. Et je crois que on gagnerait beaucoup à prier davantage et à moins médire ou dire du mal ou de critiquer nos frères et sœurs. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce message, cette vision que tu as donnée à cet adorateur et serviteur. Seigneur, merci de nous rappeler, même par son nom, que tu veux nous guider et que nous devons recevoir tes instructions dans l'adoration, dans le calme, dans la prière, dans la méditation, dans le temps personnel avec toi. Et Seigneur, tu veux nous utiliser, mais tu veux pour cela que nous ayons l'humilité de reconnaître que c'est seulement par ta grâce que nous pouvons être utilisés. Rien en nous ne justifie que tu nous utilises, Seigneur. On te demande de faire de nous des personnes humbles, Seigneur. Moi le premier, pardonne-moi avec mon orgueil. On sait que ce sont souvent des péchés récurrents dans nos vies. Je me souviens avoir écrit, alors que j'étais jeune chrétien, que un de mes souhaits, c'était d'être débarrassé de l'orgueil, Seigneur, et je vois que ce péché est toujours là, Seigneur, et je t'en demande pardon, j'en demande pardon à mes frères et sœurs. Seigneur, aide-nous à être des gens humbles, aide-nous à être des gens qui prenons nos instructions de toi, Seigneur, et donne-nous de l'amour pour nos frères, donne-nous d'aimer tous les hommes, mais particulièrement ceux de la maison de Dieu. Aide-nous à être des gens pleins d'amour dans nos familles, à être des gens de paix, et non pas des gens qui mettent de l'huile sur le feu, qui nourrissent des rancœurs, Seigneur, de l'amertume. Oui, Seigneur, pardonne-nous et transforme-nous. Merci de ce que nous pouvons nous tourner vers toi pour avoir ces victoires sur le péché, avoir ces victoires sur les mauvaises habitudes, Seigneur. Aide-nous à nous attendre à ton action, Seigneur. Des fois, nous perdons espoir parce que ça fait si longtemps que les choses traînent ou perdurent, que le péché est toléré, le compromis est accepté. Reprends-nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui veut nous transformer, Seigneur. soit béni. Oui Seigneur, merci de nous transformer pour éviter la destruction. On sait que les Édomites, après que Babylone ait détruit Jérusalem, se sont tournés contre eux, les ont emmenés aussi en esclavage, comme cette prophétie l'attestait. Ils ont disparu, Seigneur. Sois à l'œuvre dans nos cœurs, sois glorifié dans nos vies, dans notre Église, dans les églises de cette ville. Bénis-les, Seigneur. Encourage. Merci, Seigneur, pour cette prophétie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.